qu'ils ne soient pas seulement châtiés comme des chiens enragés, mais jugés avec le droit, jugés avec des preuves, jugés avec la conscience des hommes.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Nuremberg et Tokyo, comment a-t-on jugé les crimes de la Seconde Guerre mondiale? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Annette Wiewiórka. Aujourd'hui, quatrième épisode, un procès oublié, le procès de Tokyo.
Au Japon, voici que sonne pour Tojo et 27 de ses complices l'heure de la justice. Qu'y a-t-il au fond de ces têtes figées?
Le souvenir du jour de 42 où des porte-avions s'envolaient vers Pearl Harbor, les escadrilles chargées de bombes.
Loin de Nuremberg et de l'Europe, un autre procès débute au printemps 1946, le procès de Tokyo, qui doit juger les criminels de guerre japonais. Un procès oublié en Europe, mais qui en Asie et aux États-Unis a revêtu une importance capitale pour tous les peuples qui ont vécu dans leur chair la guerre sino-japonaise et celle du Pacifique. En Europe, la guerre a pris fin le 8 mai 1945, mais elle s'est poursuivie avec acharnement dans le Pacifique, le Japon refusant de se rendre. Mais en août, la déclaration de guerre soviétique, puis les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki ont contraint les Japonais à rendre les armes. Le 2 septembre 1945, la capitulation du Japon met fin cette fois pour de bon à la Seconde Guerre mondiale. Pour le général américain MacArthur, commandant suprême des forces alliées, il est urgent que naisse un nouveau Japon, moderne et démocratique. Ce qui impose d'abord de juger le régime militariste et expansionniste qui, depuis les années 1930, a entraîné son peuple dans des guerres de conquête dans tout le Pacifique et s'est rendu responsable de déportations, de tortures, de viols et de la mort de dizaines de millions de personnes aux Philippines, en Malaisie, Indonésie, Singapour et Bornéo.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
2282 dossiers seront versés au débat. 205 experts déposeront et 35 attornés jugeront. Tout sera fouillé pour retrouver la vérité à travers 15 ans d'histoire difficile à cerner, car les Nippons, plus ombrageux que les Hitlériens, amorçaient toujours très secrètement leurs préparatifs de conquête.
Après des milliers d'arrestations, plusieurs mois de commissions d'enquête, de collectes de documents et de témoignages, l'arrivée des magistrats du monde entier, le procès de Tokyo débute le 1er mai 1946. La capitale, lourdement bombardée l'année précédente, est en ruine. Le tribunal international se réunit dans un lieu encore debout et hautement symbolique, l'ancien quartier général de l'armée japonaise. Près de 200 000 personnes assisteront pendant 2 ans et demi à ce procès qui se déroule en anglais et en japonais. Sous l'autorité d'un procureur américain, Joseph Keenan, le tribunal compte 11 juges de 11 nationalités, dont la France, en face des accusés. Les premiers sont 28 hauts dirigeants japonais, ministres, diplomates, chefs militaires, hommes d'affaires ou conseillers de l'empereur Hirohito. Mais, comme à Nuremberg, il y a beaucoup d'absents. Plusieurs hauts dignitaires du régime ont préféré se suicider plutôt que de subir la justice des alliés. Le général Honjo, responsable de l'invasion de la Mandchourie, a mis fin à ses jours. De même, l'ancien premier ministre qui s'est empoisonné. Un autre haut dignitaire japonais brille par son absence. Mais sur ordre du général MacArthur, celui que les Japonais appellent le shogun aux yeux bleus, le plus important des responsables est laissé en liberté, l'empereur Hirohito, figure sacrée pour les Japonais et qui, depuis le 1er janvier 1946, a renoncé à sa nature de divinité à forme humaine. Annette Wiewiórka, comment expliquer que le procès de Tokyo soit si méconnu en France ?
Toute la guerre dans le Pacifique et toute l'histoire de la Chine à partir des années 30 n'est pas très connue en France. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui est liée à la chronologie. Vous l'avez bien dit, il y a une sorte de décalage entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Asie. Alors que la capitulation allemande date, disons, du 8 mai 45, il faut attendre plusieurs mois et les deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, pour qu'il y ait une reddition des Japonais. Et quand débute le procès de Tokyo, pratiquement au moment où celui de Nuremberg se termine, on est déjà en pleine guerre froide. Donc il y a d'autres enjeux en Asie. L'Asie est très bouillonnante. Les indépendances, l'Inde, l'Indonésie, la guerre civile en Chine, le juge chinois qui est à Tokyo est envoyé par Chiang Kai-shek, par le gouvernement nationaliste. Quelques mois après la fin de Tokyo, ça sera la proclamation de République populaire de Chine par Mao. D'ailleurs, le juge deviendra maoïste aussi. Mais voilà, donc on est dans une configuration chronologique et politique qui est quand même très très différente.
Mais est-ce que l'horreur des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki n'a pas aussi fait oublier les crimes japonais de la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, on a cette double identité de bourreau et de victime. Mais tout n'a pas été oublié. Je pense que parmi les crimes du Japon qui ne sont pas oubliés, c'est vraiment les massacres de Nankin en Chine.
On y reviendra,
Voilà. Voilà. Donc il y a un certain nombre de crimes qui ne sont pas oubliés. Et puis la façon dont les prisonniers de guerre ont été traités.
Oui, ça aussi.
Quand même ce grand film, Le pont sur la rivière Kwai, qui est dans la mémoire de vos auditeurs les plus anciens.
Comme à Nuremberg pour les crimes nazis, pourquoi est-il si important de juger les crimes japonais ? Et puis, bon, quels sont ces crimes aussi ? Est-ce qu'il y a des crimes ? C'est des crimes de guerre ? Des crimes contre l'humanité ?
La curiosité quand même du procès de Tokyo, c'est qu'il s'inscrit dans l'ombre du procès de Nuremberg. C'est-à-dire que la charte qui va être utilisée pour le procès de Tokyo est une copie de celle de Nuremberg. Les crimes maintenant. Alors là, on a quand même une grosse curiosité. Crime de guerre, dit conventionnel. C'est un peu compliqué à comprendre ce que ça veut dire conventionnel. Je pense qu'il faut l'entendre par crime de guerre défini par les conventions internationales. Et il n'y a pas de crime contre l'humanité. C'est-à-dire, le crime contre l'humanité n'est pas un chef d'accusation à Tokyo. Et en fait, quand on regarde un peu le procès, on s'aperçoit que ce qui a beaucoup occupé, c'était la question de la guerre d'agression, qui a occupé et qui a
divisé. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor, on y reviendra également. Mais quelle a été la part de responsabilité de l'empereur Hirohito comment expliquer que le général MacArthur ait tenu tant à ce qu'il ne soit pas jugé ?
Alors, ces procès, ce sont aussi des procès politiques, au sens où ils doivent servir à une politique. Et la politique de MacArthur, le shogun, comme vous dites...
Le shogun aux yeux bleus.
Voilà, c'est-à-dire, en fait, quasiment le gouverneur du américain du Japon.
Il va rester pendant plusieurs années, d'ailleurs, gouverner le Japon.
Et son obsession, c'est de faire passer le Japon du côté des démocraties.
Oui, c'est à cause de la guerre froide.
À cause de la guerre froide. Oui, et puis je pense même comme projet, mais à cause de la guerre froide, certes. Et il comprend que la figure de Hirohito, avec qui il s'entretient personnellement, peut aider à souder le Japon, puisque les Japonais ont une vénération pour cet empereur qui est sacré. Et il pense que cette figure d'Hirohito peut souder le Japon. Donc, son idée, c'est de ne pas juger Hirohito. Et il sera d'ailleurs relativement suivi par les accusés qui se garderont de mettre en cause aussi Hirohito.
Oui, il faut protéger le Japon d'une invasion soviétique ?
Pas forcément d'une invasion soviétique directe du Japon, mais vous avez d'autres enjeux dans la région. La Mandchourie, notamment, enfin un certain nombre de territoires qui ont été des enjeux entre l'Union soviétique et le Japon, et même entre l'Empire tsariste et le Japon, puisqu'on a cette fameuse guerre russo-japonaise
1905.
Qui date de 1905, voilà, et qui était une guerre pour la conquête de la Mandchourie. Il y a bien une compétition dans cette région d'Asie, oui.
Merci à Anna Wiewiórka. Dans le prochain épisode, nous parlerons plus en détail de ce procès et du verdict, notamment du procès de Tokyo.